Bras zéro, brassage radio. Le 9 février, nous sommes allés à la chapelle, à Toulouse, pour écouter le récit de trois personnes ayant passé il y a peu plusieurs semaines en Cisjordanie occupée. À leur retour, elles ont fait le tour de plusieurs lieux en Occitanie pour raconter ce qu'elles ont vu et vécu, et pour relater d'une réalité très souvent tue. Alors on a décidé de déplacer les studios et de prendre du son ce soir-là à la chapelle. Voici donc le précieux et rare récit de ces quelques semaines passées en Cisjordanie occupée. Bonne écoute.
Eh ben, bonsoir à tous. Du coup, nous, on s'appelle Hélo, Maëlle et Camille. On arrive d'Ardèche, on est paysanne en Ardèche et on vient vous parler de notre expérience en Cisjordanie occupée, où on est allé 5 semaines en novembre 2025. On va essayer de vous raconter un peu ce qu'on a vu, ce qu'on a vécu là-bas, les témoignages qu'on a récoltés des Palestiniens et Palestiniennes. Et voilà un peu de comment ça se passe, la colonisation par l'État sioniste. On n'est pas des historiennes, on n'est pas des expertes de la question de la Palestine. Voilà, du coup, on essaiera de répondre à vos questions, mais on n'est pas expertes. L'idée, c'est qu'on vous raconte un peu ce séjour et après, il y aura un temps de questions. On a mis sur la table, là-bas, à côté, des petits porte-clés en pastèque. Il y a une boîte à sous pour récolter de l'argent pour soutien à la Palestine et aussi pour défrayer notre voyage depuis l'Ardèche. Voilà. Merci beaucoup d'être là et merci à la chapelle et à toutes les personnes qui ont participé à l'organisation de cette soirée.
Je vais faire un petit point de contexte général pour situer un peu le territoire sur lequel on est allé, donc la Cisjordanie. Je vais partir de 1948, je ne vais pas raconter toute l'histoire de la Palestine. Bon, l'histoire de la Palestine ne commence pas en 1948, mais bien avant. Mais du coup, je vais me baser sur deux dates. Donc 1948, c'est la fin de la première guerre israélo-arabe. C'est ce qu'on appelle la Nakba, la catastrophe, où il y a environ 700 000 personnes qui sont déplacées hors des territoires de la Palestine. Et du coup, ça va être la création de l'État d'Israël. Nous, on va l'appeler géographiquement les territoires de 48 parce qu'on ne reconnaît pas cet État d'Israël. On l'appellera peut-être État sioniste dans nos paroles. Voilà. Du coup, la Palestine, ça se situe au Moyen-Orient. On parle beaucoup de la bande de Gaza qui est située à l'ouest et à côté de la mer Méditerranée. Et la Cisjordanie est située à l'est, à la frontière de la Jordanie. Voilà pour situer le territoire. La Jordanie, la Cisjordanie, ça fait en superficie la taille de l'Ardèche, si vous situez un petit peu notre territoire. En 1967, c'est la guerre des six jours et du coup il y a l'annexion de la Cisjordanie, de Gaza, du Sinaï et du plateau du Golan par l'État sioniste. Du coup, c'est ces nouvelles frontières qui vont être connues internationalement et ça va créer à nouveau des déplacements forcés de population. Voilà. Et en 1993, il y a les accords d'Oslo qui vont séparer la Cisjordanie en plusieurs zones. Je vais juste reprendre les notes sur la zone. Ok. Donc il y a la zone A qui représente 18% du territoire de la Cisjordanie qui est sous contrôle total de l'autorité palestinienne. Il y a la zone B qui représente 22% du territoire de la Palestine, de la Cisjordanie pardon, et du coup qui est à moitié sous le contrôle civil palestinien et le contrôle conjoint avec l'État sioniste, et la zone C qui représente 60% du territoire de la Cisjordanie et qui est sous contrôle total israélien, et que c'est là où la plupart des colonies et des avant-postes se situent. J'ai quelques chiffres récents du site Wafa News qui date de février. La Cisjordanie, depuis le 7 octobre, c'est 1100 Palestiniens martyrs, c'est 11 500 blessés, c'est 21 000 arrestations. Et du coup, la Cisjordanie, il y a 3,4 millions de Palestiniens qui vivent là-bas, dont 900 000 qui sont enregistrés sous le statut de réfugiés et qui vivent et il y en a 25% d'entre eux qui vivent dans 19 camps répartis en Cisjordanie. En Cisjordanie, il y a environ 800 000 colons israéliens qui sont répartis dans environ 160 colonies et plus de 250 avant-postes. Et les colonies, ça représente 42% du territoire de la Cisjordanie, voilà, pour situer un peu géographiquement et historiquement le territoire.
Et juste pour compléter sur le contexte, donc depuis le 7 octobre, mais aussi avant, en fait, depuis les dernières élections et le passage de l'extrême droite orthodoxe, les violences ont beaucoup augmenté en Cisjordanie. On va en parler un peu tout au long de notre récit, mais donc elles prennent plein de formes. Et ça passe par des attaques directes, des vols de troupeaux, des abattages d'arbres, beaucoup d'oliviers qui sont brûlés, et un gros morcellement de la Cisjordanie, une division qu'on vous présentera un peu par la suite. Et donc nous, dans ce contexte-là, on est parti avec une ONG palestinienne. Donc c'est une ONG qui a été créée en 1986 et qui fait partie du réseau de la Via Campesina. Donc la Via Campesina, c'est un réseau international de paysannes et paysans qui luttent pour la souveraineté alimentaire un peu partout dans le monde. Et donc nous, l'ONG avec laquelle on est parti, donc c'est une ONG qui travaille sur la souveraineté alimentaire en Palestine. Et ça prend un peu différentes formes, donc ils soutiennent à la fois des projets d'irrigation, des coopératives, ils ont une banque de semences, donc ils essaient de faire de la préservation des semences locales, et ils font aussi, du coup ils organisent aussi des campagnes pour des volontaires internationaux. Et donc là il y avait une campagne pour la récolte des olives sur le octobre-novembre, donc nous c'est dans ce cadre-là qu'on est allés. Donc l'idée, c'était un appel à la solidarité internationale pour apporter un soutien moral, une présence, créer du lien, voir un peu et ressentir ce qu'est la vie là-bas, et par la suite pouvoir témoigner et essayer aussi de faire baisser le niveau de la violence par notre présence. Donc l'idée, c'était pas forcément de les aider. Enfin, en fait, ils nous ont dit aussi qu'ils n'ont pas forcément besoin de nous pour les défendre ou pour ramasser les olives, qu'ils savent le faire eux-mêmes. Mais vraiment de partager un moment et puis après, nous de pouvoir témoigner. Et donc, sur cette campagne-là, on était 150 volontaires à peu près à être partis. Et pour le petit point sur l'ONG, donc je peux pas citer son nom parce que juste après qu'on soit parti, il y a eu un raid de l'armée dans les locaux de l'ONG, et il y a eu une perquisition. Ils ont pris des papiers, des documents, des ordinateurs. Les portes ont été scellées. Il y a eu des arrestations. Donc il y a eu 8 personnes arrêtées, dont 6 qui sont sorties au bout d'une semaine et qui ont dû aller à l'hôpital parce qu'ils avaient subi des tortures, et 2 personnes qui sont restées un mois en prison. Et donc c'est pas fini, là, l'assaut est dans une procédure judiciaire, et ils sont accusés de financer le terrorisme. Donc voilà, c'est une des stratégies, c'est de s'attaquer aux assauts qui soutiennent la souveraineté alimentaire. Voilà pour la présentation de l'assaut. Et du coup, moi, je vais commencer avec le premier village où on est allé, qui s'appelle Abou Fallah, et qui est un village de 6000 habitantes, qui est situé au nord-est de Ramallah. Donc c'est un village qui est en zone A, donc, c'est-à-dire sous autorité palestinienne, mais il y a quand même assez régulièrement des incursions de l'armée. Et c'était un village plutôt aisé et assez tranquille, comparé à d'autres villages, mais qui était quand même cerné par des villages dans lesquels il y avait des attaques quotidiennes. Et au sein de ce village, il y a quand même eu des oliviers qui ont été brûlés. Et juste après qu'on soit parti, il y a eu une maison qui a été brûlée, des colons qui ont jeté des cocktails Molotov. Et un peu plus tard, il y a un jeune qui s'est fait tuer par des colons aussi. Et donc suite à ça, il y avait un couvre-feu non officiel qui a été un peu mis en place, mais de fait, l'armée et les colons étaient très présents sur les routes autour du village, et du coup, les gens, ça limitait beaucoup leur déplacement. Et sur le quotidien là-bas, c'était assez chouette pour nous, vu qu'on avait un peu l'impression d'être dans le calme au milieu de la tempête, parce qu'on entendait plein de choses qui se passaient autour, mais nous, les journées de récolte étaient assez chouettes. Il y avait vraiment un truc joyeux. Enfin, la récolte des olives, c'est vraiment le moment de l'année où toute la famille se réunit, ramasse ensemble. Et donc là, nous, dans le village où on était, comme je disais, c'était un village plutôt aisé, et la plupart des gens, c'était pas leur activité principale, la récolte des olives et la paysannerie. C'était plutôt une activité complémentaire et pour produire l'huile pour l'année. Et on a vraiment senti un fort attachement à la terre, donc même si c'est pas ça qui les fait vivre, parce qu'ils ont tous des activités. Et aussi, oui, il y a une partie de du village qui a la double nationalité, donc il y a un fort lien aussi avec les États-Unis. Et voilà, donc c'était pas un besoin en soi la récolte des olives, mais on sentait que c'était quand même très important et que voilà, il y avait un attachement à la terre. Pour un petit point sur la récolte, cette année c'était assez catastrophique. Il y avait que 20-30% de la récolte habituelle, donc ça c'est lié au manque d'eau et au changement climatique. Et je voulais juste aussi citer une petite phrase qu'ils nous ont dit, c'est que l'huile d'olive palestinienne est la meilleure dans le monde grâce au gaz lacrymo, parce qu'il y a souvent des incursions de l'armée qui balancent plein de gaz lacrymo. Donc nous, c'était plutôt une semaine assez chouette où on a partagé plein de chouettes moments avec les familles. Mais il y a d'autres villages où la récolte est un peu plus compliquée. Et du coup, je vais passer la parole à Maëlle qui va vous parler de son expérience.
Donc moi, j'étais dans un village au sud de Naplouse qui s'appelle Bourine. Et pour le coup, là, c'est un village où la récolte des olives est vraiment très importante, parce que la plupart des personnes dans ce village sont paysans, paysannes et vivent de cette activité-là. Il y a notamment une presse d'olives qui est dans le village depuis des dizaines d'années, où les habitants amènent leurs olives pour récupérer l'huile. C'est un village où il y a une colonie qui est une des plus extrémistes, qui s'appelle Itzar, et qui empêche vraiment les gens d'accéder à leurs parcelles. Donc comment ça se passait pour nous la récolte avec les familles palestiniennes? La plupart du temps, on se levait très tôt le matin pour être sur la parcelle vers 6h pour éviter les colons et ramasser les olives de 6 à 8 heures le plus vite possible. Et soit on partait à 8 heures parce que les familles palestiniennes avaient peur de l'arrivée des colons et des représailles que ça pouvait entraîner, soit on restait toute la matinée sur la parcelle et les colons ne venaient pas, donc on ramassait les olives et c'était super. Ou alors il y a eu des cas de figure où les colons arrivaient, là on voit pas sur la photo. Moi la journée où les colons sont venus, ils sont arrivés à 3, c'était des personnes assez jeunes qui avaient entre 18 et 20 ans. Ils sont arrivés avec un chien et voilà, ils ont vraiment mis la pression pour qu'on dégage et qu'on arrête de récolter les olives. Et donc c'est un moment assez tendu où les familles sont en stress et du coup il faut vite ramasser les olives qu'on a mis dans les sacs et on remonte aux maisons, quoi. L'idée c'est de pas être dans une confrontation physique ni verbale avec les colons. La pression des colons sur cet accès aux parcelles, aux oliveraies, elle est vraiment soutenue par les forces d'occupation israéliennes. À tout moment, les colons, ils appellent l'armée pour dire il y a des internationaux qui sont là, venez. Et l'armée arrive et fait un peu ce qu'elle veut. Et notamment, elle fait ce qu'elle veut avec une procédure qui s'appelle elle déclare des zones comme zones militaires. Et en fait, sur les zones militaires, les internationaux sont interdits. Donc voilà, c'est une des procédures qu'elle a mis en place pour empêcher le soutien international sur la récolte des olives.
Et du coup, cette année, il y a eu, juste avant qu'on arrive, il y a 32 volontaires internationaux qui se sont fait arrêter comme ça. Donc ils étaient dans les champs pour récolter les olives. L'armée est arrivée, du coup ils se sont mis à l'abri pour en attendant que ça passe. Mais l'armée a déclaré la zone militaire, ce qui a justifié par la suite leur arrestation. Et c'est aussi ces personnes, il y en a qui avaient des casquettes à l'effigie de l'ONG avec laquelle on est parti, qui est considérée comme terroriste. Et du coup, voilà, ces deux arguments ont suffi pour arrêter les volontaires qui ont été emprisonnés quelques jours et ramenés à la frontière et bannis. Donc, ils ont eu des interdictions de territoire pour 99 ans. Et du coup, c'est pour montrer un peu que l'armée peut un peu faire comme elle veut, déclarer. Du jour au lendemain une zone militaire et interdire son accès.
Voilà, du coup, il y a beaucoup de paysans paysannes qui ont une grosse perte de revenus en ne pouvant pas accéder à leurs oliviers. Et dans ce village à Bourine, il y a quand même des dynamiques locales qui sont mises en place pour pallier à ça, notamment avec une coopérative agricole qui existe depuis 2020, si je ne me trompe pas, et qui permet de cultiver des plants maraîchers en serre. Il y a surtout des femmes qui travaillent dans cette coopérative, il y a une vingtaine de paysannes. Voilà, c'est une coopérative qui s'est aussi fait emmerder par les colons, il y a des serres qui ont été brûlées, il y a des sols qui ont été empoisonnés, du coup ils ont dû mettre en place un système hors sol pour pas avoir de la pollution dans leur culture. Mais voilà, il y a quand même une grosse dynamique locale pour essayer de trouver des solutions pour produire et voilà. Et cette coopérative, elle met aussi en place des prix bas pour que les gens ils aient accès à des plants, à des légumes de moins cher. Et voilà, elle subit beaucoup de pression. Les personnes qui travaillent dans cette coopérative subissent beaucoup de pression. Voilà, ils ont été convoqués au service de renseignement israélien. Il y en a qui ont été en prison. Enfin, voilà, il y a beaucoup de pression par rapport à ça.
Je vais vous parler de Jérusalem, Al-Quds. On a eu l'occasion d'aller une journée là-bas en compagnie d'une Palestinienne des territoires de 48. Donc les Palestiniens des territoires de 48, c'est au moment de la Nakba. Donc il y a eu énormément de gens qui ont dû quitter le territoire et d'autres ont pu rester sur les territoires et ont obtenu la double nationalité, donc israélo-palestinienne. Ça ne veut pas dire qu'ils ont plus de privilèges que les Palestiniens de Cisjordanie ou de Gaza. Au contraire, ils vivent de fortes discriminations. Et du coup, on a mis 3 heures pour faire à peine 40 kilomètres. Et cette personne nous disait, depuis le 7 octobre, les Palestiniens passent notre vie dans la voiture. On sait quand on part le matin au travail, on ne sait pas quand est-ce qu'on va arriver au travail ou quand est-ce qu'on va revenir chez nous. Du coup, là, on voit bien dans les images la longue file. Les longues files, en fait, c'est à cause des checkpoints. Donc, il y a toujours eu des checkpoints et il y en a encore plus depuis le 7 octobre qui ouvrent et ferment aléatoirement. Du coup, en fait, on ne sait jamais quel checkpoint va être ouvert ou pas. Du coup, les Palestiniens de Cisjordanie ont quand même développé des réseaux de communication où ils se tiennent informés en temps réel de tel checkpoint est ouvert, tel checkpoint est fermé. Donc ça, c'est assez intéressant. En allant à Jérusalem, on a pu voir vraiment tous les symboles de l'apartheid, notamment aussi en passant au checkpoint de Qalandia, du coup, qui se trouve entre Ramallah et Al-Quds. Ce checkpoint, il a été mis en place après la seconde intifada et il devait être temporaire. Il est resté. Et depuis le 7 octobre, il y a de plus en plus de contrôles et de demandes pour les travailleurs palestiniens, du coup, qui doivent fournir un passeport biométrique, un titre de travail.
Et du coup, je peux en profiter pour faire un petit point économie-chômage. Depuis le 7 octobre, on enregistre 32% de chômage en Cisjordanie. Qui a eu la révocation des permis de travail de 20% de la population de Cisjordanie, c'est-à-dire 148 000 travailleurs officiels. Et il y a encore 50 000 travailleuses sans permis qui sont privées de travail à cause des restrictions de circulation. Et du coup, les personnes, pour aller travailler, doivent franchir le mur, du coup, le mur de l'apartheid, qui a été, construit après la seconde intifada, qui s'étend sur 700 km environ. Et voilà, les travailleuses doivent prendre des risques pour aller, pour franchir ce mur de l'apartheid, pour aller travailler du côté des territoires de 48. Voilà, du coup, là, ça, c'est au niveau de Calandia. Qu'est-ce que je peux dire d'autre en... Ah oui, en termes d'apartheid aussi visible, il y a les plaques d'immatriculation. En Palestine, il y a trois types de plaques d'immatriculation. Donc les plaques jaunes, c'est les plaques des citoyens israéliens, donc ils peuvent se déplacer partout. Et c'est aussi la plaque des personnes qui vivent dans les territoires de 48, donc par exemple les Palestiniens de 48. Les plaques blanches, c'est pour les Palestiniens, donc qui peuvent se déplacer uniquement dans les territoires autorisés. Ils ne peuvent pas aller à Jérusalem, par exemple. Et après, il y a les plaques noires et rouges, ce sont les plaques armées, police, qui peuvent aller partout. Donc ça, c'est aussi un point d'apartheid ultra, ultra visible. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Ah oui, quand on était à Al-Quds, du coup, on a voulu aller se rendre sur l'esplanade des mosquées, donc à la mosquée Al-Aqsa, qui est vraiment un lieu très, très fort, très symbolique pour les musulmans. Et sauf qu'on n'a pas pu y aller. Et en fait, depuis le 7 octobre, les forces d'occupation israéliennes empêchent l'accès aux touristes à l'esplanade des mosquées pour pas qu'on voit le fait qu'il y a beaucoup de colons qui viennent empêcher les prières des musulmans. Du coup, on a essayé de passer par plusieurs endroits, mais ça n'a pas fonctionné. Et là, c'est la Via Dolorosa, c'est une rue assez emblématique d'Al-Quds, et il y a une surveillance très forte au niveau des caméras qui fichent, qui enregistrent tous les visages des Palestiniens, des Palestiniennes, pour ensuite les rentrer dans une base de données et pouvoir plus facilement faire de la répression envers elles.
Après, on a pu passer une semaine dans une communauté bédouine, dans le désert de Jéricho. Et du coup, cette communauté, on voit un peu sur la photo, c'est le petit campement. Et juste au-dessus, il y a une grosse colonie. Donc là, c'est une des plus grosses colonies qui l'entoure, mais il y en a aussi deux autres. Donc ils sont assez cernés et les colons font souvent des incursions, donc ils coupent l'eau, ils coupent l'accès à l'eau, ils suivent les enfants qui gardent les troupeaux pour leur mettre la pression. Et on a vu, donc pas dans la communauté où on était, mais dans les communautés autour, on a vu aussi des attaques. Donc le premier jour en y arrivant au bord de la route, on a vu une communauté qui se faisait attaquer par les forces d'occupation. Donc il y avait 200 militaires qui viennent, qui détruisent les bâtiments, qui volent de l'argent, qui cassent tout et qui s'en vont. Et deux jours plus tard, c'est une autre colonie, communauté à 4 km de là qui s'est fait attaquer par des colons qui, pareil, sont venus, ont détruit des bâtiments. Donc les attaques ont beaucoup augmenté depuis le 7 octobre. Il y a 35 communautés en Cisjordanie qui ont été détruites, brûlées. Soit par les colons, soit par l'armée, soit des fois par les colons protégés par l'armée. Beaucoup d'animaux aussi qui sont volés ou confisqués. Et tout ça, ça reste bien sûr impuni. Les bédouins sont contraints aussi à la sédentarité. Donc ils ne peuvent plus emmener faire paître leurs animaux. Ils sont obligés de les garder enfermés toute la journée et de les nourrir matin et soir. Et d'acheter de l'aliment qui coûte très cher. Et pour justifier, pour les empêcher justement de les emmener pâturer, Israël déclare des zones parcs naturels et du coup après justifie que les animaux ne peuvent pas y aller. Donc c'était assez assez triste à voir quoi. Un peuple nomade qui est contraint à la sédentarité et de devoir dépendre de l'achat de l'aliment pour nourrir les bêtes. Ils nous ont parlé aussi d'un problème lié à l'éducation. Donc eux, ils voulaient construire une école dans leur campement pour les enfants et ça leur a été interdit, alors que la colonie à côté peut bien sûr le faire. Et donc il y a un vrai enjeu autour de l'éducation. Pour faire un petit point économie, avant le 7 octobre, donc toutes les taxes sont perçues par Israël. Et avant le 7 octobre, une partie était reversée à l'autorité palestinienne, ce qui permettait de financer les services publics, les fonctionnaires. Et là, c'est plus le cas. Donc Israël garde tout et du coup l'autorité palestinienne n'a plus de financement pour payer les fonctionnaires et les services publics et du coup il n'y a plus que 3 jours d'école par semaine pour les enfants, quand il y a ces 3 jours, parce que des fois les enfants ou les profs peuvent pas accéder à l'école parce qu'il y a les checkpoints, parce que il y a des contrôles. Donc il y a vraiment un fort enjeu aussi, c'est encore une stratégie quoi de s'attaquer à l'éducation. Voilà pour le petit séjour. Ah oui, et si la photo suivante, c'est voilà. Nous, du coup, on a participé à construire un petit jardin, pour faire des légumes. Et voilà, c'est aussi une question qui se pose. C'est un peuple plutôt qui fait de l'élevage, mais là, vu qu'ils sont contraints à la sédentarité, ils doivent un peu repenser leur mode de vie et du coup mettre en place un peu des jardins. Voilà, donc nous on a participé à ça. Je sais pas si Hello, tu veux compléter.
Je vais prendre la suite et vous parler de Naplouse. Naplouse, qui est située au nord de la Cisjordanie, c'est une ville qui a une symbolique très forte au niveau de la résistance et notamment de la résistance armée. En 2024, il y a un groupe qui s'est créé qui s'est appelé la Fosse aux Lions, qui réunissait une petite centaine de jeunes Naplousis, qui étaient vraiment très jeunes, entre 18 et 25 ans. Ce groupe armé a duré une dizaine de mois et leur but c'était vraiment, et ils faisaient vraiment peur aux forces d'occupation parce qu'ils réunissaient à la fois des gens d'obédience du Hamas, du Fatah ou même du FPLP. Ils ont réussi à s'unir autour de l'idée commune de on veut défendre notre ville, on veut chasser les forces d'occupation de notre ville. Et du coup ils ont mené de la guérilla armée au sein de Naplouse. C'est une ville qui est assez intéressante pour ça parce qu'il y a énormément de tunnels, d'endroits cachés. Ils avaient aussi le soutien total de la population qui les cachait, qui les protégeait. Malheureusement, la moitié d'entre eux sont tombés martyrs. Donc en fait, dans la ville de Naplouse, on a vraiment des photos de martyrs partout. C'est vraiment très présent dans l'imaginaire collectif. Il y a vraiment un hommage à ces martyrs-là. Donc voilà, 50% qui sont morts et l'autre moitié qui est en prison, soit dans les geôles israéliennes, soit dans les geôles de l'autorité palestinienne. Il faut savoir qu'il y a une grande défiance au niveau de l'autorité palestinienne de la part des gens, enfin de tous les Palestiniens palestiniennes qui les accusent de collaborer avec l'État sioniste. Du coup, ce groupe n'existe plus, malheureusement. Ça va me permettre de faire un point sur qu'est-ce que c'est la répression et la prison quand on est palestinien, palestinienne. Depuis 1967, il y a 40% des hommes qui sont passés par la case prison, ça représente environ 800 000 personnes. 80% de la population palestinienne a un proche ou une proche qui a fait de la prison. Et là, j'ai eu des chiffres du Club des prisonniers palestiniens, donc qui datent de début février. Les derniers chiffres, c'est 9300 détenus incarcérés, dont 56 femmes et 350 enfants pour le début de l'année 2026, dont 3350 détenus administratifs. Les détentions administratives, c'est vraiment quelque chose de terrible. C'est on vient chez toi, on t'arrête,
on t'envoie en prison, mais t'as pas de procès, t'as pas le droit de voir un avocat, et c'est des détentions administratives qui durent 6 mois, mais qui sont renouvelables indéfiniment. Du coup, on croise des gens qui ont passé 5 ans, 6 ans, 7 ans en prison, sans procès, sans avoir pu voir d'avocat ou d'avocate, sans avoir été jugé. Voilà, du coup, c'est vraiment une technique de répression qui est assez terrible. Et à contrario, enfin, il y a 1250 détenus qui sont retenus en tant que combattants et combattantes illégaux. La prison, on a dans tous les séjours qu'on a pu faire dans les différents endroits, c'était un récit courant, et on nous racontait qu'avant le 7 octobre, bon, c'était terrible les détentions, les conditions en prison, mais depuis le 7 octobre, ça s'est encore aggravé, avec encore moins d'accès à la nourriture, beaucoup moins d'accès à l'hygiène, aux douches, donc un développement énorme des maladies telles que la gale, le typhus, et du coup beaucoup de gens qui meurent en prison. Ça fait partie de la technique génocidaire de l'État sioniste, hein, de laisser mourir les prisonniers dans les geôles. Voilà pour ce point prison. Quand on était à Naplouse, tu peux. Voilà, on s'est rendu au camp de Balata. Le camp de Balata, c'est le camp le plus peuplé de Cisjordanie. Il y a environ 30 000 personnes qui sont réfugiées dedans. Il a été construit en 1949, donc juste après la Nakba. Et là, en fait, à l'entrée du camp, on voit cette sculpture d'une clé. La clé, c'est la symbolique de la Nakba et de la volonté du retour des Palestiniens, des Palestiniennes dans leur maison. On la trouve assez souvent à l'entrée des villes. Voilà, c'est un symbole très fort de résistance et d'une envie du retour dans les villages. Le camp de Balata, du coup, ça, voilà, comme je disais, c'est le camp le plus peuplé. Et c'est sur une superficie vraiment très, très réduite. C'est moins d'un hectare, la superficie de ce camp. Les constructions sont vraiment très rapprochées. Les ruelles font moins d'un mètre de large. Et quand on était là-bas, si tu veux passer la prochaine diapo, voilà, ça c'est une photo. C'est beaucoup les enfants du camp qui nous ont demandé de la prendre en photo. Pour eux, c'est un événement. En 2023 ou 24, il y a eu des tirs de roquettes des forces d'occupation israéliennes sur cette maison. C'était une maison de la résistance du Fatah. Et du coup, il y a eu 5 martyrs. Et pareil, c'est une histoire qui est vraiment transmise et racontée aux gens qui viennent dans ce camp. Donc, c'était important pour les enfants qu'on prenne en photo et qu'on raconte cette histoire du camp de Balata. Et les camps de réfugiés, il faut savoir, c'est des grands terrains d'entraînement pour les forces d'occupation. Ils vont régulièrement dans les camps la nuit pour faire des entraînements, enfin autant des entraînements que des arrestations arbitraires et placer des gens en prison. Voilà pour Naplouse.
Petite pause musicale avec Massar du trio Joubran. Alors le trio Joubran, ce sont 3 frères palestiniens qui jouent du oud et des percussions arabes et palestiniennes. Et justement, par leur musique, ils rendent hommage aux luttes et à l'oppression des peuples autochtones et affirment en particulier d'ailleurs que leur musique prend part à la lutte du peuple palestinien et pour la reconnaissance et la libération de ce peuple.
Thank you.
Après, moi, je vais vous parler d'une autre zone en Cisjordanie occupée, c'est la vallée du Jourdain. Du coup, la vallée du Jourdain, c'est toute la zone qui est frontière avec la Jordanie et où passe le fleuve du Jourdain. C'est une zone où 88% de cette zone est en zone C, du coup en total contrôle de l'État sioniste. Il y a un gros enjeu au niveau de la vallée du Jourdain parce que les terres sont très fertiles et du coup il y a un gros enjeu agricole et elle est très impactée par le colonialisme sioniste depuis le 7 octobre parce que voilà, c'est vraiment le grenier agricole et alimentaire de la Palestine. Et en plus de ça, dans la vallée du Jourdain, il y a des grands espaces plats qui permettent des bases militaires pour faire des camps d'entraînement ou pour l'agriculture, comme je le disais. Donc voilà, il y a un gros enjeu de récupération des terres pour l'État sioniste. Dans la vallée du Jourdain, on a été dans une... Enfin non, il y a aussi, je voulais vous parler de l'eau qui est très importante. En fait, il faut savoir que l'État sioniste a totalement accaparé l'eau en Palestine. Sur la vallée du Jourdain, par exemple, l'État sioniste détourne l'eau de la vallée du Jourdain pour alimenter des colonies qui sont plus au sud de la Cisjordanie occupée. Et pour vous donner un petit chiffre, l'eau est vendue 20 centimes de dollars aux Israéliens et 4 à 7 dollars aux Palestiniens. Voilà, donc il y a un gros écart de prix et l'accessibilité à l'eau pour les Palestiniens est très compliquée. Et ils sont totalement dépendants, en fait, de l'État sioniste. Nous, à la vallée du Jourdain, on a été dans une ferme, dans un village qui s'appelle Kirbet Makoul. C'est une ferme où la famille, composée d'une dizaine de personnes, les parents et une dizaine d'enfants, ont un troupeau de brebis, donc 350 brebis et chèvres, et ils essayent de survivre malgré la présence des colons, la présence des bases militaires. La ferme est totalement entourée, en fait, il y a une route qui passe, et sur cette route, il y a soit des jeeps de l'armée, soit des voitures de colons qui passent. Voilà, donc c'est une... Je sais pas si on voit là sur la photo... Ouais. Là, toutes les lumières qu'on voit au fond, c'est la base militaire, le camp d'entraînement. Et derrière, la tour, tout à la cime de la colline, c'est une colonie. Donc c'est très compliqué pour cette famille de vivre de leur troupeau, parce qu'en fait, ils ont été accaparés, enfin, les colons ont accaparé tous les pâturages. Ils avaient une dizaine d'hectares, maintenant il leur reste plus grand-chose. Et donc, pour nourrir leur troupeau, ils achètent de l'orge, de l'avoine et du son aux entreprises israéliennes. Ils achètent ça à des prix très élevés. Ça représente à peu près 5 000 euros par mois. Voilà, donc c'est, économiquement, c'est très compliqué pour cette famille. Nous, on a été là-bas pour faire de la présence protective. L'idée, c'était de faire des veilles de nuit parce qu'ils subissent souvent... des vols de la part des colons ou des emmerdements, quoi. Du coup, l'idée, c'était de veiller toute la nuit jusqu'à 4 heures du matin au cas où qu'il y ait des vols ou des choses comme ça, et apporter un soutien moral à cette famille. Et l'autre, tu veux en parler aussi ?
Ouais. Kirbet Makoul, c'est vraiment, enfin, pour moi en tout cas, ça a été le village qui incarnait la colonisation. Enfin, on voyait vraiment bien au niveau urbanisme et architectural comment la colonisation se fait, quoi. Vraiment, c'est un enfermement à l'extérieur. Même le ciel, en fait, il est colonisé. Le soir, on faisait nos gardes en se disant « Ah bah super, on est dans la veille du Jourdain, on va pouvoir regarder les étoiles. » Bah non, en fait, on ne peut pas regarder les étoiles parce qu'il y a cette pollution lumineuse due au camp militaire et à ces colonies. Donc la colonisation, elle est même au niveau des étoiles, quoi. Du coup, c'est assez fort symboliquement, quoi. Après, Kirbet Makoul, c'est aussi... Pour moi, c'était aussi un symbole de résistance. Cette famille, tous les membres de la famille portent le keffiyeh pour toutes leurs activités. Voilà, elles sont vraiment très fières de porter ce keffiyeh. Et du coup, c'est super important de le noter, de le préciser. Malgré les exactions quotidiennes de l'armée et des colons, ils gardent une force. Et voilà, le chef de famille... nous disait, en fait, c'est notre sang qui coule dans cette terre, on va pas partir, on sait pas où aller ailleurs. Eux, c'est pas des bédouins, eux, c'est des fellahs, c'est des paysans, mais au sens politique du terme, paysans, attachés à la terre et avec des valeurs fortes, quoi. C'était surtout ça que je voulais dire, et un peu des petites victoires, c'est que pour aller chercher de l'eau pour leurs bêtes, ils ont réussi à trouver une canalisation qui allait dans une colonie. Ils ont réussi à chanter cette canalisation pour eux abreuver leurs bêtes, et voilà, c'est ces petits trucs de résistance quotidienne qui sont importantes à souligner et à dire. Vivre et grandir à Rirbet Makoul, quand on est gamin, c'est entendre au quotidien du coup les tirs d'entraînement du camp militaire. Donc c'est vraiment quotidien qu'on entend ces tirs. Et du coup, c'est aller faire paître les bêtes à 500 mètres du village et se retrouver avec des mortiers, retrouver des douilles, des balles qui sont pas encore percutées, donc qui peuvent potentiellement exploser. Voilà, du coup, c'est quand on est enfant dans ce village-là, et pas que à Rirbet Makoul, mais aussi dans toute la Cisjordanie occupée. Voilà, c'est grandir avec la guerre au quotidien, quoi.
Moi, je suis allée aussi dans une ferme d'élevage dans la vallée du Jourdain, donc à peu près même topo, vraiment très très cernée entre une zone d'entraînement militaire, une colonie et un checkpoint, donc le checkpoint de Hamra, qui est un checkpoint sur une route qui est très utilisée parce qu'elle relie une grosse partie de la Cisjordanie à la vallée du Jourdain, et donc c'est une route qui est quotidiennement empruntée par les Palestiniens et les Palestiniennes pour aller travailler. Donc tous les jours on voit des files de voitures parce que le checkpoint est pas toujours ouvert. Oui, c'est pareil, je trouve qu'on ressent fort l'enfermement qui est un peu, enfin, qui est quand même très visible parce qu'il y a tout ça qui entoure, mais il y a aussi nous là, il y avait une montagne juste à côté, et du coup on était là-bas, est-ce qu'on peut aller se promener dans la montagne, et le paysan dit oui, mais faut pas vous faire voir, sachant qu'il y a une zone militaire là, un checkpoint là, et donc on y va un peu, mais en fait on sait jamais trop où est la limite de la zone militaire. Et du coup, il y a vraiment cette sensation d'enfermement assez forte. Et moi, là, du coup, la ferme où j'étais, c'était une famille qui était là et qui, pareil, était harcelée assez régulièrement. Donc, juste avant qu'on arrive, il y a les forces d'occupation qui étaient venues en pleine nuit, à 4h du matin, faire une incursion dans la ferme, qui avaient encerclé la ferme. Puis, ils avaient pris les enfants, les avaient mis dans une pièce séparée des parents, pris des photos, cassé des objets. Et puis, après, ils repartent au bout de 2 heures. Le paysan s'était fait prendre son tracteur. Il s'était fait 6 fois détruire leur maison. Donc, à chaque fois, ils la reconstruisent. Mais c'est incessant. Et il y a 50% de ces terres auxquelles il n'a plus accès parce qu'elles ont été déclarées zones militaires. Donc voilà, il s'adapte. Là, il avait mis des serres, il faisait des fraises en hors-sol, du coup. Et pareil, il a accès à l'eau très compliqué. Et il y a une petite anecdote que j'ai trouvée chouette, c'est le grand-père qui nous racontait que les forces d'occupation étaient venues le voir pour lui proposer de l'argent contre la ferme, pour qu'il parte, quoi. Et il lui avait proposé 2 millions et lui avait pris une olive dans ses oliviers et il avait dit tout l'argent que vous pourrez me donner, ça vaudra pas cette olive, et pour dire qu'il y a un fort attachement à la terre, et que même si donc la photo d'avant, je pense qu'on, là on voit pas hyper bien, mais en gros ils se sont fait brûler pas mal d'oliviers, donc ils ont perdu tous leurs oliviers, mais ils restent, et ils me disaient aussi que leur vie, elle était difficile, il y avait beaucoup de travail, que la situation était pas facile à vivre, mais que de toute façon c'était leur vie, et que c'était un acte de résistance que de rester, et que voilà, eux ils allaient rester quoi qu'il en soit. Donc voilà, ça c'était pour la vallée du Jourdain.
Et mis à part l'économie agricole, le colonialisme de l'État sioniste a aussi un fort impact sur l'économie touristique. On s'en est surtout rendu compte quand on est allé dans la ville de Bethléem, Voilà, bah, la Palestine, c'est la terre sacrée, donc il y a beaucoup de lieux religieux, et donc il y a un gros, il y avait un gros tourisme lié à la religion. À Bethléem, quand on y allait, c'était assez désertique. On a du coup parlé avec des commerçants qui nous disaient, bah voilà, que c'était très compliqué pour elle de vivre de leur commerce parce qu'il y avait de moins en moins de tourisme, et notamment, enfin, il y a très peu de tourisme en fait depuis le 7 octobre. Là, c'est un peu en train de revenir, mais voilà, ça reste compliqué. Dans la basilique de la Nativité, là où est né Jésus, avant, c'était rempli. Il y avait des bus qui venaient de partout dans le monde. Quand on y allait, il n'y avait pas grand monde. Et voilà, ça se ressentait dans la ville. C'était assez désertique. À Hébron aussi, Camille, toi, tu veux en parler c'est...
Ouais, à Hébron, donc Hébron, c'est une ville très importante en Cisjordanie. C'est une grosse ville avec un fort pouvoir économique, il y a beaucoup d'industries là-bas. Et c'est une ville aussi particulière parce que c'est la seule ville dans laquelle il y a des colonies au milieu de la ville. Donc il y a 5 colonies dans la ville, dont une en plein dans la vieille ville, où habitent 500 colons protégés par 2000 soldats. Et c'est vraiment assez particulier parce que la vieille ville, qui est très belle... c'est un peu devenu une ville fantôme parce que en fait c'est un peu sur deux étages quoi. Donc les Palestiniens palestiniennes sont en bas et au-dessus dans les étages c'est des colons qui se sont installés et du coup partout il y a des grillages qui protègent en bas parce que les colons jettent des déchets. Des bouteilles et du coup dans toutes les ruelles il y a des grillages pour se protéger de ça et donc dans ce quartier il y a beaucoup de rues qui ont été fermées, il y a des murs qui ont été dressés. On a rencontré une femme qui nous a montré un mur et qui disait bah là de l'autre côté il y a le cimetière donc on n'y a plus accès. Il y a des barbelés de partout, il y a beaucoup de caméras aussi, des tours de contrôle. Et du coup, on voit toutes ces ruelles qui étaient un ancien souk où il y avait beaucoup de commerces. Et beaucoup de commerces ont été fermés par l'armée, les portes ont été scellées. Il y en a qui sont aussi partis d'eux-mêmes parce qu'en fait, il y a un peu cet enfermement et cet enserrement qui fait que la ville étouffe. Et les quelques commerces qui restent ouverts, ils galèrent à survivre. Donc on voit un peu, ouais, voilà. Donc ça, c'était un quartier avec des boutiques et un souk. C'est assez marquant. Et aussi, en plein dans la vieille ville, il y a aussi un checkpoint en plein milieu. Donc ça, on voit la limite de ce côté-là. On est côté palestinien et il y a ces grandes barrières qui permettent de passer côté israélien. À gauche, c'est une grosse école qui était une école palestinienne qui a été prise et qui est prise par les Israéliens. Et donc en plein centre-ville, dans une petite ruelle, il y a un checkpoint. Voilà. Et ça, c'est un checkpoint que certains Palestiniens, Palestiniennes doivent emprunter quotidiennement parce qu'ils habitent dans le quartier de l'autre côté. Et nous, on a dû attendre 20 minutes sans raison. Les soldats nous disaient qu'il y avait plus d'électricité alors que tout était allumé. Et donc le guide avec qui on était nous expliquait que voilà, c'était quotidien et que il y a des gens qui devaient passer leur vie à attendre. Et ce checkpoint, il permet aussi d'accéder à la mosquée d'Ibrahim. Donc la mosquée d'Ibrahim, c'est assez particulier aussi. Il y a eu un massacre en 1994, donc il y a 29 personnes qui ont été tuées et beaucoup de blessés. C'est un attentat qui a été fait pendant la prière par un juif radical. Et donc suite à ça, la mosquée a fermé pendant quelques temps, et quand elle a rouverte, la moitié de la mosquée avait été réquisitionnée pour faire une synagogue. Et donc ça, c'est un peu marquant parce que quand on arrive à la mosquée, il y a des drapeaux israéliens partout et la moitié de la mosquée n'est pas accessible. Il y a des grands panneaux et de l'autre côté, du coup, ils en ont fait une synagogue. Voilà, donc c'est un peu tout ça à Hébron. On voit vraiment l'occupation Et c'est assez dur pour les personnes qui sont dans cette vieille ville et qui subissent quotidiennement la confrontation avec les colons. Voilà pour Hébron.
Peut-être pour parler un peu de nous, comment ça s'est passé et en général comment ça se passe pour les internationalistes, même si oui, on peut être exposé à la violence, il y a quand même des internationalistes qui ont été tués ces dernières années, mais il faut savoir que voilà, on est peu exposé à la violence en tant qu'occidentaux, que nous on s'est senti assez en sécurité, mais après voilà, psychologiquement c'est pas forcément facile, on vit avec les familles l'état d'occupation je pense que c'est bien de se préparer à ça, mais en tout cas les gens nous ont vraiment dit qu'on a reçu un très bon accueil et qu'ils étaient contentes qu'on soit là pour les soutenir moralement et que c'est faisable. Voilà, c'est vrai qu'on peut, nous avant de partir je pense qu'on se faisait, ça, on avait un peu peur, on s'imaginait aussi de voilà comment ça va se passer, qu'est-ce que et finalement c'est faisable. On pourra peut-être en échanger plus avec vos questions, mais
ouais, et puis aussi pour amener un peu de positivisme, parce que c'est pas non plus très joyeux ce qu'on vous raconte, hein. Mais c'est dire que les Palestiniens et Palestiniennes, ils résistent en fait. Alors ils n'ont pas le droit d'avoir des armes, c'est complètement interdit, en tout cas en Cisjordanie. Du coup, c'est très compliqué de parler de révolution armée, etc. À part ce qui s'est passé à Naplouse. Mais rien que le fait de continuer d'exister, de continuer à faire des enfants, de continuer à cultiver ses oliviers, ses parcelles, et aussi de continuer à construire des bâtiments. La Palestine, c'est un territoire qui est en chantier permanent. Il y a énormément de constructions de la part du coup des forces d'occupation et des colons, mais il y a aussi énormément de constructions de la part des Palestiniens et des Palestiniennes. Il y a vraiment une guerre qui est en train de se faire au niveau de l'urbanisme et de qui va construire le plus vite. Donc voilà, le fait d'exister, c'est un acte de résistance très, très fort. Et voilà, eux, ce qu'ils nous ont demandé, c'est que on a le privilège d'avoir ce passeport blanc, de pouvoir aller et venir un peu comme on peut, de venir chez elles, de partager des instants avec elles et de rapporter leurs témoignages dans nos territoires. Et voilà, c'est ce qu'on fait, et c'est ça, cultiver aussi les valeurs de l'internationalisme au quotidien. Donc voilà.
Et pour, on a fait des petits papiers avec des sites internet sur lesquels il y a pas mal de ressources pour se renseigner sur ce qui se passe là-bas. Il y a des sites qui donnent un peu des news au quotidien. Donc il y a des petits papiers. Enfin, je peux vous les citer comme ça, les sites. Il y a l'OCHA et Wafa News. Mais on a fait aussi des petits papiers sur la petite table derrière si vous voulez en prendre.
Bras zéro, laissez de la place.